Bonjour à tous, merci de m'accueillir à Toulon. Je parlerai sans micro, parce que j'ai l'habitude de m'adresser à des étudiants, et ça se fait sans micro, donc j'espère que vous m'entendez dans le fond. Ça marche. Alors moi, je travaille à l'Université de Nice. Depuis une dizaine d'années, mon laboratoire, le laboratoire Lagrange, est impliqué dans des projets de développement d'astronomie en Antarctique, sur le continent antarctique. Et il m'a été donné de faire... Alors j'ai marqué un hivernage en Antarctique, en fait j'en ai fait deux. J'y suis allé en tout une dizaine de fois depuis 2002, bah oui, ça fait une dizaine d'années. Campagne d'été, donc des campagnes courtes de 2 à 3 mois. Et puis deux hivernages, c'est-à-dire des séjours d'un an sur la base Concordia que je vais vous présenter après. Le premier en 2006 et le deuxième en 2011, l'année dernière. Et je suis rentré de Concordia il y a, en janvier 2011, donc ça fait pas tout à fait un an. Voilà, donc je suis maintenant bien décongelé. Donc il y a quelques mois, j'aurais pas accepté de parler devant un public aussi large, mais maintenant ça va mieux. Alors je vais vous raconter un peu mes expériences d'hivernage. Voilà. En commençant par cette carte de l'Antarctique pour vous montrer la position de la base. Ça se trouve ici. Donc c'est une base franco-italienne, s'appelle Concordia, qui se trouve à 1000 km à peu près de la côte. Ça fait 1000 km. L'Antarctique, c'est grand, on a à peu près 4-5 000 km depuis la pointe de la péninsule ici jusqu'à la station chinoise par là, la station Zhongshan. Et il faut savoir que sur ce continent, donc, qui n'est pas du tout habité, il n'y a pas d'Esquimaux, il n'y a pas d'Inuits, il n'y a que des scientifiques, qui sont répartis sur une cinquantaine de bases, principalement au bord de la mer, tout autour du continent. Une quarantaine de bases au bord de la mer. Et puis, voilà, 5 bases à l'intérieur du continent. Donc sur ces 5 bases, il y en a 3 qui sont ouvertes en permanence toute l'année, qui accueillent des gens comme Concordia, j'allais dire de décembre à décembre, c'est Concordia, donc justement, la base russe de Vostok, à 600 km à peu près de Concordia, et puis, pardon, la base américaine de Pôle Sud, qui est habitée depuis les années 50. Ce qui fait qu'en hiver polaire, à l'intérieur du continent, on est une poignée de scientifiques isolés et complètement coupés du monde. Et donc, c'est ce que j'ai vécu, moi, pendant 2 ans. Alors, je vous ai mis sur la diapo 2 bases côtières, la base française de Dumont-d'Urville et la base italienne de Mario Zucchelli sur la baie de Terranova. Pourquoi ces bases? Parce que Domsay étant une base franco-italienne, la logistique, donc l'acheminement des gens vers Concordia passe soit par Dumont-d'Urville, soit par Mario Zucchelli, la base italienne. Et on va commencer par le voyage. On va se rendre depuis la côte d'Azur jusqu'en Antarctique. Donc on commence par prendre l'avion. Et puis, suivant qu'on passe par la logistique française ou italienne, on va passer par soit la Nouvelle-Zélande pour les Italiens, donc prendre l'avion à partir de l'île sud de la Nouvelle-Zélande, depuis la ville de Christchurch, qui a subi quelques tremblements de terre il y a 2 ans. Et là, ils ont des avions un peu militaires qui font la liaison entre la Nouvelle-Zélande et l'Antarctique en 4 à 8 heures suivant le type d'avion. Ils ont même un Airbus depuis 3-4 ans, là, un Airbus complètement aménagé, où en fait les gens voyagent en première classe avec les écrans, comme dans les avions quand on va à New York. Bon, ce qui change des avions militaires qu'on prend d'habitude, où là on voyage avec les bagages et où les hôtesses de l'air sont des gens galonnés. Et voilà. Et si on passe par la logistique française, à ce moment-là on va passer par la Tasmanie, donc c'est la petite île là qui est au sud de l'Australie. Et là on prend le bateau. On prend le bateau qui va traverser l'océan glacial antarctique, donc les 40e rugissant, et qui va arriver jusqu'à Dumont-d'Urville, qui se trouve à peu près au large de Hong Kong, donc qui va se trouver à peu près par là. Voilà. Et j'ai quelques images de la traversée en bateau, parce que quand même, cette traversée en bateau, c'est un bon bizutage pour les gens qui vont la première fois en Antarctique. Le voici, ce bateau. Il a l'air inoffensif, hein. Il s'appelle Astrolabe. Il fait 60 mètres de long, c'est un petit bateau. C'est un ancien remorqueur qui a été converti en brise-glace. Et donc, en 5 à 6 jours, il va nous mener, bon an, mal an, jusqu'à sur la base de Dumont-d'Urville. Vous voyez, même le projecteur, il a le mal de mer. Et donc, voilà, pendant 5 jours, eh ben, on va passer, décidément, on va passer pas mal de temps dans la cabine, en fait. Tant qu'on est couché, ça va, on est bien. Et dès qu'on se lève, eh ben, on a envie de vomir. Donc, suivant l'état de la mer, c'est la mer que traverse le Vendée Globe, en fait. Hein, c'est les 40e. Donc, eux, en plus, ils sont sur des petits bateaux. Nous, on a quand même un bateau de 60 mètres de long. Il y a des gens qui sont malades pendant 5-6 jours. Donc, on voit rentrer dans leur cabine au début de la traversée. Et puis, on les voit ressortir de leur cabine 6 jours après. On dit, ah, mais t'étais là, toi ? Voilà. Ils sont nourris de pommes. Ils sont allés aux toilettes de manière improbable en se tenant au mur. Voilà. Mais après, au bout de 5 jours, ben, on arrive là. Donc, ça, c'est la récompense de tout le voyage. Et je dirais que la première fois qu'on va en Antarctique et qu'on voit ça, c'est extraordinaire. On est dans Thalassa, on est dans les images du commandant Cousteau, tel qu'on les voyait quand on était petit. Voilà, c'est vraiment un paysage fabuleux. Et donc ce bateau qui va briser la glace et qui va arriver jusqu'à la côte, jusqu'à la base de Dumont-d'Urville, où il se trouve à quai ici. Sur le quai ici, décidément, c'était un PC pas cher. Sur le quai du Lyon, ici le quai de débarquement du bateau. Voilà, donc là on n'est pas encore rendu à l'endroit où j'ai verné, on est sur la côte, on est en transit en fait, et on va rester là quelques jours, le temps qu'ils acheminent les gens par avion pour aller à Concordia. Et donc pendant ces quelques jours, on va faire du tourisme, donc on va profiter du paysage, parce que ma foi, c'est quand même pas des coins où on va tous les jours. Donc voilà les couleurs qu'on a, le paysage qu'on a à la tombée de la nuit, quand le soleil est très bas sur l'horizon. Ça, c'est au mois de janvier, début janvier. Donc le soleil est permanent, presque permanent, et on a comme ça des paysages fabuleux. Et ça, c'est la base de Dumont-d'Urville. Elle est très moche. Elle est très moche, comme la plupart des bases antarctiques, sauf Concordia, évidemment, qui est la plus belle base du monde. Mais c'est une base qui date des années 50. Donc au début, les gens, comment dirais-je, s'attachaient surtout à la fonctionnalité des bâtiments, la sécurité. Donc ils n'ont pas tellement fait dans la dentelle au niveau, j'allais dire, du design. Donc c'est surtout des containers assemblés et puis des structures qui sont fonctionnelles, quoi. Avec ici des passerelles qui permettent de passer d'un bâtiment à l'autre, notamment en hiver où il peut y avoir des vents à 200 km/h, eh ben, il faut se tenir à la rambarde pour sortir. Et puis l'omniprésence des manchots à cet endroit. On a 60 000 manchots qui se reproduisent, c'est des manchots à Delhi, qui se reproduisent en été, donc sur l'archipel de Dumont-d'Urville, enfin sur l'archipel des Pétrels, l'île des Pétrels. C'est plein de petites îles qui sont juste à côté de la côte, du continent antarctique lui-même. Et donc sur toutes ces îles, on a à peu près 60 000 manchots, et c'est un paradis pour les ornithologues. Il y a beaucoup de gens qui viennent en été et qui restent l'hiver également pour étudier les manchots. Voilà. Et voilà un autre type de manchot, les empereurs. Vous les connaissez, hein, le film La Marche de l'Empereur. Tout le monde l'a vu, ou presque. Donc ça, c'est des jeunes, des poussins empereurs qui ont le pelage encore gris. Ils sont en train de muer pour certains. Et ils sont finalement assez curieux et attachants. On peut les approcher quasiment comme là. Ils nous regardent un petit peu, ils s'approchent, ils s'écartent. Et ma foi, ils croient qu'on est des gros manchots. Ils veulent essayer de nous apporter des cailloux, éventuellement. Hein. Et donc d'autres manchots à Delhi. Les empereurs sont là en hiver, les adélies sont là en été. À la fin de l'été, ils partent, ils reprennent la mer, et les empereurs arrivent. Donc il y a des manchots tout au long de l'année à Dumont-d'Urville. Voilà, et puis j'ai un petit film que j'aime bien. Hein, c'est quand même des bestioles assez, on va dire, belliqueuses. Alors ils se battent pour des cailloux. Et ils passent leur temps à aller chercher des petits cailloux et construire un nid. Et en fait, ben, quand le monsieur il est parti chercher un caillou, le monsieur d'à côté, il se dit à quelle aubaine, il va piquer les cailloux du voisin. Et donc, ils n'arrêtent pas de se battre comme ça pour des cailloux. Et normalement, là, on a une femelle, vous voyez, avec des poussins sur lesquels elle couve. Voilà, là, je n'ai pas le son, mais ça fait un bruit de poulailler, quoi. On a une image très, 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 comment dirais-je, belle des manchots. Mais quand on est là-bas, on a vraiment l'impression d'un poulailler. Et puis, ça... voilà. Et puis des phoques. Voilà, donc toute la faune antarctique telle qu'on la connaît. Voilà, donc quelques jours à Dumont-d'Urville, un petit peu de tourisme, un petit peu de visite des curiosités locales. Et puis après, ma foi, il est temps d'aller bosser. Donc on va prendre l'avion pour aller à Concordia. Donc c'est des petits avions un peu improbables comme celui-là, qui transportent une tonne. Alors une tonne entre fret et passagers. On voyage avec les bagages, hein, là aussi. Et c'est des avions qui sont montés sur ski. Et donc, c'est des avions qui, comment dirais-je, ne sont pas recommandés pour les gens qui ont peur de l'avion, on va dire comme ça, surtout quand il y a un peu de turbulence, et qui mettent à peu près 5 heures pour relier, ici on est à Terranova, la base italienne, Mario Zucchelli, pour relier Terranova à Concordia. Et donc voilà le genre de paysage qu'on a quand on décolle. Juste au-dessus de la base Zucchelli, on a des glaciers, on a des montagnes, c'est les Alpes, mais en plus grand. Et puis, ma foi, au bout d'une heure de voyage, bah, le paysage s'adoucit, le relief existe encore, vous voyez. On voit ces montagnes qui sont là, seulement elles sont enfouies sous la neige. Et en fait, l'épaisseur de glace est de plusieurs kilomètres. Vous voyez, là, j'ai mis une coupe de l'Antarctique. Et on a ici l'épaisseur, enfin, comment dirais-je, 3300 mètres d'altitude, quasiment et en dessous c'est l'altitude du continent. Donc le rocher ici est à 1500 et la glace ici est à 3800. Donc il y a 2300 mètres d'épaisseur de glace à cet endroit-là. Et Concordia, on est à peu près par là plutôt. On est à 3300 mètres d'altitude et le continent est au niveau de la mer, donc il y a 3 km de glace sous nos pieds quand on est à Concordia. Il y a 90% de l'eau douce mondiale qui se trouve renfermée dans les glaces de l'Antarctique, c'est énorme. Et qui est finalement pas tellement impactée, je parle du continent antarctique, pas de la côte et des banquises qui l'entourent, mais qui n'est pas très impactée pour l'instant par le réchauffement climatique, parce qu'il ne fait jamais de température positive à ces endroits-là, donc ça ne fond jamais. Voilà, et ça c'est quand on arrive, donc c'est le site de Dôme C, c'est les Américains qui les avaient baptisés comme ça. Alors c'est des dômes assez grands, hein, la base de Dôme C fait 1000 km. Il y a Dôme A, il y a Dôme C, il y a Dôme F, c'est pas très poétique. On parle aussi de Dôme Charlie ou de Dôme Concordia. Et donc la base, en fait, il y a deux parties distinctes. Ça c'est le premier site, le site historique qui a été bâti à partir de 1995. À l'époque, on dormait sous tente. Voici les tentes de 8 places avec un poêle. Donc les premières missions que j'ai faites où la base n'était pas finie, ben, j'ai dormi sous la tente. Et des fois, le poêle tombe en panne. Et puis ici, on a les bâtiments de la base elle-même, qu'on va voir sur la diapo d'après un peu mieux. De là à là, il y a à peu près 500 mètres. Voilà, donc c'est pas très grand. Et en fait, les scientifiques qui passent l'hiver ici, ben, c'est leur quartier d'habitation pendant un an. Et donc ça, c'est la base. Donc une photo prise de nuit, on voit pour les astronomes amateurs, et je sais qu'il y en a dans la salle, on voit la constellation d'Orion, c'est ça, avec le Baudrier, et puis il est à l'envers, la nébuleuse se trouve au-dessus. Ça, c'est atypique. Donc deux bâtiments qui ont été construits entre 98 pour les fondations, parce que quand on construit des structures en Antarctique, on commence par creuser un gros trou, et puis on tasse de la neige dedans, en mettant de la neige et puis en roulant avec des bulldozers et en faisant un millefeuille de neige tassée, jusqu'à ce que la glace soit suffisamment solide et compacte pour accueillir des structures comme celle-là. Et donc, des bâtiments sur pilotis, avec des structures métalliques qui ont été acheminées de France et qui ont été assemblées sur place comme un mécano géant. Donc quand je suis arrivé, bah, c'était comme ça. Et j'ai assisté, ça c'est moi qui ai pris la photo, à la couverture, à la pose des panneaux du deuxième bâtiment ici. Voilà. Alors pour l'anecdote, en fait, les Américains sont en train de nous copier, enfin ils nous ont copiés, parce que cette idée de structure sur pilotis est assez nouvelle. À l'époque, on faisait plutôt des dômes. À Pôle Sud, il y avait un grand dôme, mais qui s'enfonce progressivement dans la glace. Et donc, les pilotis sont finalement une bonne solution qui permettent de réajuster l'altitude des bâtiments et surtout l'inclinaison. On peut, nous, on le voit sur un an, hein, sur le billard, par exemple. On le met d'équerre au début de la saison. Un an après, quand on pose la boule d'un côté, la boule roule jusque l'autre côté. Donc il y a vraiment un travail de la glace, même sur un an. On le voit également sur nos télescopes. L'alignement du télescope sur l'axe polaire change. Il faut refaire une correction tous les 2 mois à peu près. Donc deux bâtiments, disais-je, d'habitation. Un bâtiment dit calme, qui comprend notamment les chambres des hivernants qui sont là. Il y a 16 chambres. Donc il y a de la place pour 16 personnes. C'est des chambres qui sont au format CTU, 9 mètres carrés, avec 2 lits superposés. On est 2 personnes en été, 1 personne en hiver, des chambres individuelles. Et c'est important d'avoir sa chambre individuelle quand on va passer un an. Parce que c'est un endroit où on est. C'est un endroit à soi, quoi. C'est son petit coin d'Antarctique quand ça ne va pas trop, quand les autres, on ne les supporte plus tellement, ben, on peut aller dans sa chambre et puis on est bien, on sera pas dérangé. C'est un peu l'intimité de l'hivernant qui est là. En bas, on a l'hôpital. Il faut savoir que la base est isolée entre février et novembre. Il n'y a pas d'avion qui peut aller sur la base. Donc, s'il y a une opération à faire, il faut la faire avec les moyens du bord. Donc, il y a un hôpital qui est même assez bien achalandé, avec des anesthésiques, avec bon, tout, toute la, enfin, qui est assez moderne. Il y a même un appareil de radio et un scanner. Et puis, un médecin hivernant, qui a plutôt une formation de chirurgien, qui hiverne avec l'équipe. Voilà. Et puis, au sommet, sur le toit enfin, juste en dessous du toit du bâtiment, on a les laboratoires des scientifiques. Donc astronomie, physique de l'atmosphère, glaciologie, médecine. Médecine, c'est-à-dire étude de l'adaptation des gens à des conditions comme celle-là pendant un an. Voilà. Et puis l'autre bâtiment, donc le bâtiment bruyant, activité bruyante. Donc le restaurant, salle à manger. En général, les cuistots sont bons, sauf l'année dernière. Voilà. Deuxième étage, magasin, salle de sport, salle vidéo, plutôt le côté détente qui est important parce qu'on ne peut pas vraiment sortir de la base, sauf pour aller voir nos expériences, mais on n'y va pas pour le plaisir. Donc on s'amuse à l'intérieur et la salle de sport était très utilisée. Et puis au rez-de-chaussée, tout ce qui était atelier, le compacteur d'ordures. Et dans ce bâtiment annexe, les groupes électrogènes qui fournissent l'énergie, l'électricité à la base. Voilà, donc un groupe qui fonctionne de manière nominale, un deuxième en secours, un troisième en secours de secours, un quatrième de secours de secours de secours si tout cet endroit a brûlé, par exemple. Et puis après, on a des petits groupes, un pour l'hôpital, un pour la radio. Et si toute la base brûle, pas de chance, on peut toujours se réfugier au camp d'été. Ou s'ils arrivent à démarrer le groupe du camp d'été, ce qui n'est pas forcément gagné, d'après ce que j'ai compris des collègues mécaniciens qui étaient avec moi, eh ben on peut survivre en attendant le premier avion. Voilà. C'est quand même une expérience un peu forte. Et ça, c'est la team 2011, l'année dernière. Les Français sont en bleu, sauf un intrus, là, lui, c'est un Écossais. Les Italiens sont en rouge. L'Écossais, c'était le médecin scientifique qui est mandaté par l'ESA pour faire des études sur nous, prise de sang, études psychologiques, questionnaires, etc., dans la perspective des futurs voyages habités, notamment vers Mars, etc. On avait dialogué d'ailleurs à son initiative et à l'initiative de l'ESA avec les gens de l'ISS. Il y avait un astronaute italien dans l'ISS à une époque et on l'avait eu au téléphone. Et c'était assez rigolo parce qu'il nous décrivait, bah là, je suis en train de passer au-dessus de l'Afrique, je vois des nuages, le ciel est noir. C'était une expérience assez forte à vivre. Voilà, et donc on est tous plus ou moins barbus, chevelus, ça c'est moi. Voilà, des souvenirs. Alors la science à Concordia, que je regarde ma montre parce que faut pas que je déborde trop, là, ça va. La science à Concordia, donc j'en ai parlé un peu tout à l'heure. Il n'y a pas de manchots, il n'y a pas de phoques, il n'y a pas d'oiseaux, il n'y a pas de vie. À part nous, il n'y a pas de vie, il n'y a même pas de microbes. Donc il n'y a pas de science du vivant, pas d'ornitho, etc. Donc c'est de la science du minéral, c'est de la science de l'environnement. C'est de l'astronomie, bien sûr. avec nous qui avons notre petit coin d'Antarctique par ici, et puis des expériences également à 800 mètres de la base sur une tour, qu'on verra en photo tout à l'heure. Brain et Rate, ce sont une expérience italienne, un télescope de 80 cm qui fonctionnera dans l'infrarouge, qui n'est pas encore opérationnel. Et Brain, c'est un instrument qui mesure le fond cosmologique, qui a été produit peu de temps après le Big Bang, donc dans le domaine des micro-ondes. Et puis après, la cave sismologique est là, qui fait partie d'un grand réseau de monitoring de la sismologie terrestre. Donc avec ça, on voit les séismes, par exemple celui de la Nouvelle-Zélande, ben, on l'a vu, dans le sismographe de Concordia. Ils ont les enregistrements de tous les séismes mondiaux, et donc ça fait partie de cette base de données de sismographes. Mesure du champ magnétique, glaciologie, physique de l'atmosphère, voilà, c'est un petit peu le panorama de la science qu'on a à Concordia. Donc vous voyez l'échelle ici. Et il faut savoir que moi, assez régulièrement, j'allais en hiver et à pied, et par moins 80 degrés, de Concordia jusqu'à la tour américaine. J'ai quelques photos de dehors. Voilà. Alors moi, je suis plutôt astronome. Donc ce qui m'intéresse dans ce site, c'est d'y faire de l'astronomie. Et souvent, les gens me demandent, mais qu'est-ce que tu vas te faire en Antarctique, ça caille, alors qu'il y a des observatoires à Hawaï, aux Canaries, dans des sites un peu plus glamour. Voilà. Et ben, je leur réponds qu'en fait, d'abord, c'est un désert. C'est un des plus grands déserts du monde, parce que le taux d'humidité est extrêmement faible, même si on est sur 90% d'eau douce de la planète, ce qui est assez paradoxal. Et puis surtout, la première motivation pour aller faire de l'astronomie en Antarctique, c'est la nuit, c'est le fait d'avoir la nuit polaire. Donc une fois que le soleil est couché, eh ben il ne se lève plus, et puis il y en a pour des mois. Et donc on peut avoir comme ça du 24 heures sur 24 de nuit, et entamer des programmes d'observation de cibles, par exemple des étoiles variables, des exoplanètes, sur plusieurs semaines ou plusieurs mois. Ça a été vraiment la première motivation qu'ont eu les astronomes pour venir en Antarctique. Et vraiment, les pionniers, ça a été des gens de mon labo, dans les années 79, hein, tu les as connus. Voilà, donc rendons leur hommage, ils sont encore vivants. Eric Fossa et puis Gérard Grec, donc deux personnes de mon labo, qui sont encore en activité. Enfin, lui est à la retraite depuis le mois de septembre. Et en fait, ils ont eu l'idée de monter une collaboration pour aller faire des mesures sur le Soleil, donc en été polaire, quand le Soleil est 24 heures sur 24. Et ils s'intéressaient aux oscillations du Soleil. Donc les oscillations, c'est les pulsations du Soleil. Le Soleil est une étoile qui pulse. Et donc sa surface gonfle et dégonfle et gonfle et dégonfle, avec des périodes qui sont de l'ordre de quelques minutes. Et voilà le genre de résultats qu'ils ont obtenus. En abscisse, c'est des fréquences, et les pics qui sont là, c'est un peu comme des notes de musique, comme des pics qui correspondraient à Do, Ré, Mi, Fa, Sol, etc. C'est toutes les fréquences qui sont présentes dans les vibrations du Soleil. Voilà ce qu'on avait de mieux avant qu'ils aillent faire leur manip au pôle Sud en 79. Voilà ce qu'ils ont obtenu en 6 jours d'observation continue. C'était surtout ça qui était important, le fait que ce soit continu, et ça, il y a quasiment que les régions polaires qui permettent de l'offrir, ou l'espace, mais ce n'est pas les mêmes tarifs. Et voyez le gain en résolution sur cette simple courbe, et ça a été vraiment le lancement de l'idée que l'Antarctique était un continent qui était potentiellement intéressant pour les astronomes. Voilà. Et c'est ce même Eric Fossa qui, dans les années 90, fin des années 90, en collaboration avec Jean Vernin, que tu connais, qui ont proposé, alors que les instituts polaires français et italiens avaient signé un accord pour la construction d'une base franco-italienne sur le continent antarctique, ont proposé d'aller faire des mesures de la qualité du ciel pour voir si cette station se prêtait à l'implantation d'un observatoire. Première mission donc en 1995 par Jean Vernin, qui était le directeur de thèse de Jean-Luc. Ah, tu étais parti, ouais, c'est vrai. Ouais, ouais. Moi, j'étais arrivé fraîchement au labo. Et puis, à partir de 2000, la montée en puissance. Donc là, le programme a été, financé. Et les premières campagnes d'été ont pu avoir lieu. Et donc, vous voyez, ça, c'est moi, en fin 2002. Et vous voyez la station Concordia qui est encore en construction avec les premiers télescopes qu'on a amenés sur le site. Ce sont des télescopes du commerce. C'est un Celestron 11, donc 30 cm de diamètre, avec des montures du commerce. Du commerce un peu cher quand même, hein, c'est pour les amateurs fortunés, mais du commerce quand même. Et l'idée, c'était de tester le comportement de ces instruments au froid. En été d'abord. En été, il fait entre moins 20 et moins 50. Voilà, et ben, en dessous de moins 37, ça se passe pas bien du tout, hein, notamment pour les moteurs de la monture, qui la graisse fige, et donc se comporte comme de la colle, et quand on essaye de faire tourner le télescope pour pointer l'étoile, et ben, il bloque, et il n'y a pas moyen. Ça a été aussi le début de toute une campagne de recherche et développement pour trouver des matériaux, pour trouver... Des systèmes qui permettent de fonctionner non seulement l'été mais aussi l'hiver, parce que c'était l'objectif de faire des manips en hiver, de faire des mesures en hiver. Et donc premier hivernage, la base a ouvert en 2005 et on en est aujourd'hui en 2012 au 8e. On les numérote, hein, DC1, DC2, DC3, DC4 jusqu'à DC8. Et donc moi j'ai eu la chance de faire DC2 en 2006 et DC7 en 2011. Voilà. Et donc je vais vous parler un petit peu du genre de choses qu'on a fait. Et voilà donc nos installations en Antarctique, notre petit coin d'Antarctique, j'allais dire. On est ici à 300 mètres de la base. C'était notre promenade quotidienne. On a hiverné à deux astronomes l'an dernier. La première année, en 2006, j'étais seul. Et donc les deux fois, eh ben, on allait régulièrement faire une visite à tous les instruments qui étaient là. C'est principalement, en tout cas pour la partie qui se trouve à gauche de l'antenne, des instruments de mesure de qualité du ciel et de mesure de turbulence. Et pour ce qui se trouve à droite de l'antenne, ce sont des instruments de photométrie qui sont plus récents, qui visent à chercher des exoplanètes. C'est le gros sujet à la mode, on va en parler tout à l'heure. Voilà, si je ne suis pas trop bavard et si on a le temps. Et ces structures-là, ces plateformes qui font 5 mètres de haut, qui ont été imaginées pour s'élever au-dessus de la turbulence de surface et de la perturbation de la surface. Ces structures ont inspiré la Poste. Vous voyez le timbre des Terres australes. Alors, timbre cher quand même, hein, 4,90. Mais il faut savoir qu'il y a des clubs de philatélistes fous qui achètent ce genre de timbre et qui envoient des grosses enveloppes avec des cartes postales ou des lettres adressées à eux-mêmes avec le timbre à oblitérer là-bas. Et ils se les font renvoyer chez eux. Et comme ça, ils ont le timbre et la flamme de l'Antarctique. Voilà. Alors, au niveau de ce qu'on a découvert, d'abord quelque chose qui nous a confortés, c'est le fait qu'il fait beau. Peut-être contrairement à ce qu'on pourrait penser. Parce que l'Antarctique, on imagine qu'il y a des tempêtes, mais ça, c'est sur la côte. Sur la côte, on a le mélange entre l'air océanique et puis l'air très froid qui vient de l'intérieur. Et ça forme des fronts qui font qu'il y a des vents, par exemple, à 300 km/h. À Dumont-d'Urville, ça s'est vu. Mais dès qu'on rentre à l'intérieur, dès qu'on fait 1000 km à l'intérieur, comme à Domsay, eh ben, les conditions sont stables et il fait beau. Il fait même beau en hiver 85-90% du temps. Donc c'est mieux que sur la côte d'Azur. C'est même mieux qu'à des endroits où on a des observatoires, comme Mauna Kea, Hawaï ou Paraná au Chili. Ça a été vraiment une surprise. C'était plutôt une bonne nouvelle. Voilà. Et donc au niveau météo, l'autre bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de vent. Vous voyez le graphe en bleu qui est en haut. Ça, c'est la vitesse du vent en mètres par seconde. 10 mètres par seconde, ça correspond à 3 km heure. Ça doit faire 36 km heure, voilà, c'est ça. Et donc, c'est un vent qui est plutôt faible, qui n'a rien à voir avec les 300 km heure de vent qu'on a à Dumont-d'Urville. Et en fait, la moyenne annuelle, vous voyez, elle est ici, 3 mètres par seconde, donc ça fait 10-12 km/h, c'est plutôt faible. Ce qui veut dire que si on met des grands télescopes, on ne sera pas gêné par le vent, ça ne risque pas de casser. Et puis la température, donc voilà l'été. L'été, on voit d'ailleurs l'alternance, la courbe glogliote un petit peu, comme ça. Jour, nuit, jour, nuit, jour, nuit. Le jour, il fait plutôt moins 20, moins 25. Puis l'été, la nuit, il fait moins 40. C'est une nuit relative parce que le soleil est là en permanence en été. Il est simplement bas sur l'horizon. Puis à partir de, on va dire, de mars-avril, on rentre dans un régime un peu plus chaotique, vous voyez, où les températures peuvent descendre jusqu'à moins 80. Et l'an dernier, c'est descendu à moins 80,1. En 2006, on a eu moins 80,0. Et le record à Dôme C, le record mesuré, c'est moins 83,5 en 2010. Il faut savoir qu'en Antarctique, d'ailleurs sur Terre, les températures les plus basses mesurées, c'est moins 89 et quelques à la station russe Vostok. Donc on s'approche en fait des records mondiaux de température. Donc il fait quand même bien froid. Et donc ça, c'est la période de nuit permanente, donc dans laquelle on peut avoir à la fois des températures, vous voyez, autour de moins 50, mais aussi le lendemain, des températures de moins 70, moins 80. Donc on est bien couvert. On a des vêtements qui permettent de résister à ces températures-là. Et ça, c'est une photo que j'aime bien. Vous voyez, vous avez tous remarqué ce pic ici, devant, là, c'était fin février, où le vent est monté brusquement pendant 3 jours à 17 mètres par seconde. Et quand il y a du vent, eh ben, le vent soulève de la neige. Il n'y a pas beaucoup de précipitations, mais par contre, la neige s'accumule par brassage, parce que le vent la soulève et elle se dépose absolument partout. Et préférentiellement là où on n'a pas envie qu'elle vienne, c'est-à-dire dans la coupole du télescope. Et voilà comment était le télescope au bout de 3 jours. Alors ça s'en va tout seul, ça ne reste pas, donc il suffit de prendre un chiffon, ça s'en va tout de suite, mais ça fait des structures un peu comme celle-là. Mais sinon, la plupart du temps, il fait beau, j'ai dit 90%, et en été, le ciel est coronal, un terme qu'utilisent les astronomes pour dire qu'il est tellement pur que même si vous cachez le soleil, on voit le soleil qui est derrière le bâton, bah, jusque très très près du soleil, le ciel reste bleu. Ça, c'est parce qu'il n'y a pas de pollution et pas tellement de vapeur d'eau dans l'atmosphère. Ça, c'est une bonne nouvelle pour l'astronomie. Ça veut dire que le ciel est pur, le ciel n'est pas chargé en aérosol, par exemple, et en humidité. Et il est tellement pur que... Vous voyez cette photo faite à midi, en été, c'était en janvier 2010, je crois. On a la Lune ici, ça c'est pas un scoop. Par contre, ce qui est plus rigolo, c'est qu'on voit Vénus, là, le petit point qui se trouve au bout de l'antenne. Ça, c'est un petit peu plus fun. On la voit en altitude, hein, parfois en montagne, chez nous. Et finalement, comme on est à 3300 mètres d'altitude, comme de plus, la pression est plus faible au niveau des pôles à cause de la vitesse centrifuge, la force centrifuge qui envoie l'atmosphère plutôt vers l'équateur, eh ben, le baromètre vous dit 3008, donc on a un ciel qui correspond à ce qu'on a dans le massif du Mont Blanc à 3008-4000 mètres d'altitude. Donc un ciel extraordinaire, paradis des astronomes. Et quand il ne fait pas beau, ben, ça donne ça. J'aime bien cette photo. Par contre là, on ne voit pas à 100 mètres. Hein. On a des structures en bois qui sont dans cette direction, mais on ne les voit pas sur la photo. Et ça, c'est en été, quand il fait encore jour. En hiver, on ne sort pas quand les conditions sont comme celles-là. Voilà, alors au niveau des expériences, je me dépêche quand même, parce qu'il y a du boulot. Donc voilà les expériences qu'on avait en 2011. C'est des expériences de mesure de la qualité du site. C'était l'avant-dernière année que ce programme de qualification du site tournait, puisque maintenant il y a une bonne photographie de ce qui se passe. Donc on mesure la turbulence. Alors, j'ai des petites diapos qui illustrent, mais il faut savoir que la turbulence, c'est ce qui dégrade la résolution des images. Et puis c'est un petit peu comme la météo, on a des paramètres. En météo, vous avez la température, vous avez la vitesse du vent, vous avez l'humidité, et chaque paramètre a son instrument de mesure propre. Ben là, c'est pareil, vous avez le seeing qui est mesuré par lui, vous avez l'échelle externe qui est mesurée par lui, vous avez l'angle d'isoplanétisme qui va être mesuré par lui. Et vous avez, alors lui c'est un instrument un petit peu particulier qui mesure la répartition verticale de la turbulence pour savoir s'il est plutôt en bas ou plutôt en haut quand on regarde l'atmosphère à partir du sol et en montant. Et puis on a des capteurs également sur cette tour qui fait 45 mètres. Donc on avait comme ça une batterie d'instruments qu'on a surveillé, dont on s'est occupé pendant, en tout cas moi, les 2 hivers où j'étais là-bas, et plus particulièrement en 2011, où c'était ces instruments-là qui ont tourné. Alors j'ai parlé de mesure de la turbulence, d'instruments qui mesurent la turbulence. Tout est automatisé de manière à ce que l'astronome soit bien au chaud dans son labo. Voici mon collègue Jamel Mekarnia et moi-même en 2011. Donc bah, la vie est belle hein, quand même. On a ici un déport de tous les claviers écrans, de tous les PC d'acquisition qui nous permettent de contrôler les instruments qui sont à 300 mètres comme s'ils étaient à côté de nous. Ça c'est super. Et donc on ne sortait que quand il y avait un pépin. Voilà. Et donc ça, ça a été notre quotidien pendant un an. On a passé là-dedans peut-être 15 heures par jour pendant un an. Et ce qui était pas mal, c'est qu'on s'entendait plutôt bien, ce qui était quand même une bonne nouvelle. On se connaissait avant de partir, puisque Jamel était à l'observatoire, mais sans plus. Et on s'est un peu découvert pendant l'hivernage. Et le feeling est bien passé, j'allais dire. Et c'est très important dans une équipe de gens que vous envoyez comme ça dans un site un peu isolé. Parce que s'il y a des tensions, et il y en a, bah, ça peut vite devenir insupportable. C'est comme un vieux couple qui se déchire et il n'y a pas moyen d'aller faire un tour dans la ville voisine ou de prendre l'avion pour changer d'air. Voilà. Et bon, ça, c'est par rapport au contrôle à distance, les mesures de température, mais ça, je ne vais pas trop les commenter. Je parlais de turbulence optique. Alors, j'aime bien cette diapo. Elle a été prise en Antarctique, à Mario Zucchelli. On a ici la bouche d'une chaudière avec de l'air chaud qui sort. Voilà ce qu'on voit de ce côté-là, de la chaudière. Et voilà ce qu'on voit quand la ligne de visée traverse l'air chaud qui se mélange à l'air froid. L'air chaud qui sort de la chaudière. Et ce mélange d'air chaud et d'air froid crée de la turbulence qui dégrade les images. Et alors maintenant, on imagine que si on prend un télescope qui va grossir, eh ben, la dégradation qu'on aura sur les images. Et donc c'est un paramètre, la turbulence, qui est devenu important lorsqu'on qualifie des sites, lorsqu'on va prospecter pour implanter des sites de par le monde. Alors, j'ai parlé de paramètres. Le paramètre le plus célèbre, c'est le seeing. C'est la résolution des images. C'est un angle. C'est l'angle du plus petit détail qu'on voit pour une turbulence donnée. Quand il n'y a pas de turbulence du tout, voilà ce qu'on verrait de Jupiter. Imaginez qu'on enlève l'atmosphère, eh ben, on verrait Jupiter comme ça, avec un gros télescope. Quand on est en métropole et que les conditions ne sont pas trop mauvaises, on a plutôt ça. Vous voyez, c'est pas génial. On distingue un peu les bandes équatoriales et puis la tache rouge à peine. Et ben, ce qu'on peut avoir à Concordia, c'est plutôt ça. Une résolution de 0,3. Alors, moyennant quelques compromis dont je vais parler après, mais on peut avoir assez régulièrement ça, en tout cas la moitié du temps. Donc ça a été aussi une surprise, on ne savait pas du tout à quoi s'attendre. Et donc, on s'est aperçu que cette qualité de seeing est deux fois supérieure au meilleur site du monde qui se trouve à Hawaï, où ils ont plutôt 0,6 secondes d'arc. Et secondes d'arc, c'est un angle, un degré, c'est 3600 secondes d'arc. C'est un petit poids sur la tour Eiffel quand on est en bas, hein, pour fixer un peu les idées. Voilà, alors comment ça se mesure? Par des instruments du commerce qu'on a modifiés. On dit qu'on les a antarctisés. Donc c'est la boîte qui nous les a vendus. Et donc des télescopes du commerce, des montures du commerce, et puis une caméra maison. Et donc l'idée, c'est que sur ce télescope, on met un masque avec deux trous, on fait deux images d'une étoile, ça marche même en plein jour, ces images ont été prises en plein jour, et puis on mesure la différence de position des deux étoiles. Et donc, cette différence de position nous renseigne sur la quantité de turbulence et nous permet de calculer le seeing. Donc, c'est une méthode assez simple et des instruments assez simples qui sont bien adaptés à l'Antarctique. Et donc, ce qu'on a découvert avec cette batterie d'instruments, c'est que justement, en hiver, il se forme au-dessus du sol. Il y a un effet congélateur, ce que j'appelle l'effet congélateur. C'est ce que vous avez quand vous ouvrez le congélateur pour chercher à manger. Si vous approchez doucement le doigt de la glace qui est dans le congélateur, dans les tout derniers centimètres avant d'atteindre la glace, ben vous allez sentir le froid. La température va chuter brutalement. Il y a un gradient de température qui est très fort au voisinage de la glace. Ben là, c'est pareil. Si vous imaginez un doigt géant qui vient de l'espace et qui vient toucher le sol de l'Antarctique, il va commencer à sentir le froid à peu près 30 mètres au-dessus du sol. Et donc, il y a un très fort gradient de température sur 30 à 100 mètres au-dessus du sol, qui génère une couche turbulente assez forte sur 30 mètres. Par contre, si on va au-dessus, et on sait faire parce que, par exemple, les télescopes solaires sont sur des tours à cause de ça, eh ben, on a cette fameuse résolution fantastique dont j'ai parlé tout à l'heure. On est deux fois meilleur que le meilleur site du monde, 50% du temps. Voilà, donc ça a été vraiment un comment dirais-je, ça combiné à la météo, combiné à la nuit polaire, etc., fait qu'on se demande pourquoi on n'a pas pensé avant de mettre des observatoires en Antarctique. Voilà, alors fort de ces résultats encourageants de la qualification du site qui se termine, là c'est la dernière année, après ces instruments vont repartir, on a monté un projet, donc c'est une collaboration européenne, donc la plus d'astrophysique, de recherche d'exoplanètes par la méthode des éclipses, des transits. C'est l'idée que quand une planète a le bon goût de se trouver, de passer devant son étoile, eh ben, il se passe la chose suivante. Vous voyez, là, elle passe derrière. Elle va passer devant et vous comprenez ce qui va se passer. Pendant qu'elle est devant, il y a une baisse de la luminosité de l'étoile. Et si c'est une planète qui est de type Jupiter, par exemple, devant une étoile qui est de type le Soleil, cette baisse de luminosité, c'est 1% ou une fraction de pourcent. Et ça, on sait le détecter avec des instruments modestes, télescope de 40 cm, caméra adaptée, mais c'est détectable. Et donc, ça a été le programme ASTEP, donc Antarctic Search for Transiting Exoplanet. Et l'idée, c'est, encore une fois, de profiter du fait que la nuit dure plusieurs mois pour prendre des champs d'étoiles et les observer pendant des semaines et des semaines, de prendre toutes les étoiles du champ, de mesurer les courbes de lumière et puis de voir s'il n'y a pas des planètes qui passeraient devant. Alors, dans le langage des transits, on a ça. Si on imagine que l'étoile est là, quand la planète passe devant, ça crée donc une baisse de luminosité, 1% ou 0,5%. Mais quand elle passe derrière, c'est pareil. Hein ? C'est le principe des phases. Quand la planète est là, le côté éclairé est devant l'étoile, un peu comme les phases de Vénus, par exemple. C'est la nouvelle planète, comme la nouvelle Lune. Quand elle est là, elle est éclairée sur le côté, donc c'est le quartier de planète. Quand elle est là, elle est éclairée quasiment de face, c'est la pleine planète. Et donc, la lumière, la luminosité qu'on voit, c'est la somme de celle de l'étoile plus celle qui est réfléchie par la planète. C'est des pouillèmes, hein, c'est des parties par million, c'est vraiment minuscule. Mais quand elle passe derrière, cette lumière va manquer, et on aura un tout petit décrochement de la courbe de lumière. Ce qu'on appelle le transit secondaire, et ça avait été détecté dans l'espace par le satellite Corot. Bon. Alors voilà le télescope, donc l'expérience ASTEP. Il a été installé en 2010. On a ici donc notre ingénieur, Karim Agabi, qui a suivi le projet depuis le début. Et donc en été, le télescope, avec une structure un peu en serrurier, comme ça, le miroir qui se trouve ici. Le télescope a été entièrement dessiné pour l'Antarctique, la caméra également. Photo de jour, et après, j'ai quelques autres photos. Donc le télescope dans sa coupole, qui n'est jamais fermé, sauf quand on doit travailler sur l'instrument, mais en mode observation, la coupole est toujours ouverte, parce qu'en fait, il pleut jamais, il neige quasiment jamais, donc on laisse ouvert, il n'y a pas de voleur. Et puis, quelques belles photos quand la nuit commence à tomber. La nuit commence à tomber à partir du mois de mars-avril. Et là, on commence à voir les premières étoiles. Vous voyez ici la planète Vénus devant le télescope. Et puis, carrément, la nuit. La première nuit à Concordia, c'est quand même sympa. Je me rappelle, j'ai souvenir de mon premier hivernage en 2006, quand on commence à voir les étoiles. Et surtout, cette voie lactée flamboyante qui passe quasiment au zénith et qui fait le tour du ciel et qu'on voit se coucher sur l'horizon. C'est assez, pardon pour le micro, c'est assez à couper le souffle. Voilà, et donc le télescope ASTEP ici, avec la base qui est là. Et pour les connaisseurs, pour les astronomes, on a ici la Croix du Sud, voilà, avec la nébuleuse de la Carène et le sac à charbon qui se trouve par là. Et le centre de la Voie lactée ici, avec le Scorpion. Voilà. Alors, ce télescope, il a observé des exoplanètes. La première qu'il a observée, on voulait être sûr de notre coup. Donc on s'est dit, on va pointer une cible connue, On va l'observer et puis on va voir si ça marche, si on retrouve les résultats qu'on connaît déjà. Donc ils ont décidé de pointer la cible, l'étoile WASP-19. WASP, c'est le nom d'un catalogue, c'est le nom d'une expérience, en fait, Super WASP, qui est une expérience automatisée qui suit comme ça des champs d'étoiles dans le ciel et qui mesure de manière automatique des milliers de courbes de lumière pour essayer de voir passer des planètes, donc de voir le petit décrochement dans la courbe de lumière, mais de manière automatique. Et l'étoile qui a été pointée, WASP-19, héberge la planète dont la période de révolution est la plus petite connue à ce jour, c'est 19 heures. Elle est là, cette étoile, dans la constellation des Voiles. Voilà, la Croix du Sud est ici, encore une fois pour ceux qui connaissent un peu le ciel. Donc WASP-19 héberge une planète qu'on a appelée WASP-19b. C'est pas très sexy, hein, mais voilà, c'est fonctionnel. Pour la comparer à Jupiter, c'est à peu près, hein, à peu près la taille de Jupiter. C'est pas une photo, c'est juste un dessin en fait pour la comparer, pour la mettre à l'échelle. Donc c'est une planète de type Jupiter, comme la plupart des planètes qu'on connaît d'ailleurs sont de type Jupiter. Voilà. Et donc quand ASTEP l'observe, quand ASTEP fait une image avec un temps de pause de 1 minute, voilà ce que ça donne. Là-dedans, il y a WASP-19, l'étoile. Voilà. Il y a quelques milliers d'étoiles dans le champ, ça fait 1 degré. Donc la pleine lune fait la moitié du champ, donc on mettrait 4 lunes, 1, 2, 3 et 4 dans le champ total. Et donc l'étoile doit se trouver, je crois qu'elle est par là au milieu, c'est peut-être celle-là, là. On va voir si j'ai raison. Allez, soyons fous. Je n'ai pas révisé, hein, donc Ouais. Voilà, c'est elle. Bon, après, il y a des procédures de reconnaissance automatique du champ, bien sûr, mais... voilà. Et en fait, par un traitement automatique, le programme reconnaît toutes les étoiles du champ et mesure la quantité de lumière qui est tombée dedans. Il stocke ça dans un gros fichier. Puis on passe à l'image d'après. Donc, il y a une image toutes les 2 minutes à peu près. Donc sur une nuit, ça fait un paquet d'images. Et sur une saison, encore plus d'images. C'est des téraoctets de données. Et c'est des heures et des heures de calcul. On a là-bas un serveur de calcul qui fait 48 processeurs et qui tourne de manière assez musclée pour traiter les données. Et donc voilà les premières courbes de lumière d'ASTEP sur WASP-19. C'est un franc succès parce qu'on retrouve ce décrochement dans la courbe de lumière. Alors malheureusement, l'observateur est allé se coucher. Donc pendant qu'il allait se coucher, il n'a pas laissé en mode observation, du coup il y a quand même des trous dans la courbe. Mais par contre, vous voyez, les décrochements sont dus au passage de la planète avec la bonne période de 19 heures qu'on connaissait depuis les observations spatiales. Donc c'était une très bonne nouvelle, ça montrait que ça marchait. Et en fait, ça a même marché au-delà des espérances. Vous voyez, ces courbes de lumière, on peut les empiler, on sait que c'est 19 heures la période. Donc on prend la première. Puis après, on coupe à 19 heures, celle d'après, on la remet sur la première, puis on fait la moyenne. Puis celle d'encore après, on la remet sur la moyenne pour mettre en face les creux. Et donc, on obtient une moyenne de toutes ces courbes de lumière. On dit qu'on replie les courbes de lumière les unes sur les autres pour faire une très belle courbe de lumière avec un très bon rapport signal sur bruit, donc une très bonne qualité. Donc voilà ce qu'on a obtenu pour ASTEP. Ça correspond aux différentes phases du passage de l'étoile. Donc quand la planète commence à passer devant son étoile, elle se promène comme ça, la courbe diminue. Quand elle a fini de pénétrer devant l'étoile, c'est comme les contacts pour les éclipses. Premier contact, c'est quand elle tangente le bord. Deuxième contact, c'est quand elle est complètement rentrée. Troisième contact, c'est quand elle est passée de l'autre côté. Ça, c'est quand elle est au milieu. Et quatrième contact, quand elle est sortie, donc ce moment-là. Et ce qui est intéressant, c'est de comparer la courbe obtenue en Antarctique par ASTEP avec d'autres courbes dans la littérature. Voilà la courbe qui a permis à SuperWASP de dire qu'il existait une exoplanète. Voilà, ils ont osé publier avec ça. Alors ça se voit un peu, hein, mais on est quand même en limite de détection. Bon, c'est quand même des petits télescopes, hein, c'est 10 cm, c'est pas... Voilà. Vous voyez qu'on fait quand même vraiment, vraiment beaucoup mieux, quoi. Et finalement, si on compare à ce qui a été fait avec un télescope de 2 mètres, eh ben, on n'est pas ridicule avec nos 40 cm de diamètre en Antarctique. Et c'est vraiment une expérience qui a fonctionné de manière parfaite. Bon, on y a mis quand même quelques moyens. Ça a été financé par des ANR, par l'INSU, etc. Mais ça marche bien. Et ça marche même tellement bien. Je vous ai parlé du transit secondaire, qu'en fait, on a réussi à le détecter. Le transit secondaire, c'était la première détection d'un transit secondaire sur Terre. Donc, il n'était pas dans l'espace. Donc là, le papier a été soumis. On est en limite de détection, on est à 3 et quelques sigma, donc c'est en limite de détectabilité, mais c'est significatif. Et donc, on est super content. Et donc, le reste des données est en cours de dépouillement. Ça, c'est une étoile qui était connue. On a observé d'autres cibles, d'autres champs d'étoiles, en fait, pour partir à la pêche, pour aller chercher des nouvelles exoplanètes. Et on a découvert une dizaine de candidats potentiels. Alors, peut-être que ça, je vais passer. Ça, c'est simplement pour dire que ce que nous apportent ces éclipses, ces transits, c'est des informations sur la planète elle-même, donc la masse, le diamètre, la densité, si c'est une planète plutôt rocheuse ou plutôt gazeuse, etc. On va simplement passer, simplement pour dire qu'on a donc une dizaine de candidats. Et donc peut-être que bientôt, là je vois des téléphones, il y a des applications exoplanètes sur les smartphones. Peut-être que dans quelques années, sur les smartphones, on aura dans l'application exoplanète, à step 1, à step 2, à step 3, à step 4. Ça va être sympa. Voilà, puis on va peut-être finir sur quelques belles photos, les 30. Donc voilà, ça c'est des images qui ont été prises quand le soleil commence à décliner sur l'horizon. Donc c'est plutôt février. Premier coucher de soleil, c'est le 11 février, parce qu'avant, le soleil est là en 24-24. À partir du 11 février, il commence à se coucher, et donc on rentre dans une période un peu d'automne, où ça va être le jour et la nuit, comme chez nous. Il y aura de plus en plus de nuits, jusqu'au mois de mai. Le 4 mai, le soleil s'en va complètement, il disparaît. Et donc à midi, on a le dernier soleil, au nord. En général, on prend le champagne ce jour-là, et puis on sait que la prochaine fois qu'on verra le soleil, ce sera le 11 août. Trois mois de nuit polaire. Alors, au début, c'est du crépuscule, et puis petit à petit, on va basculer vraiment dans la nuit permanente. Et le 21 juin, c'est là où le soleil est le plus bas, on voit les étoiles vraiment 24 heures sur 24. Même à midi, on a la Voie lactée qui traverse le ciel, on ne sait même pas que le soleil existe. Vous voyez ? Ce qui a quand même une incidence sur la morale des troupes. Il y a quelques belles images un peu en ombre chinoise, donc des télescopes et des plateformes, avec la coupole d'Astep ici. Des images du rayon vert que connaissent les marins, que connaissent les astronomes amateurs aussi. Quand le soleil est près de l'horizon, l'atmosphère joue un petit peu le rôle d'un prisme et disperse les rayons lumineux, parce que c'est de la lumière blanche qui est composée de plein de couleurs. Et donc on a des phénomènes d'irisation, et parfois, quand le soleil est encore un peu à l'horizon, il apparaît verdâtre, comme ça, d'où le nom de rayon vert. Mais comme en Antarctique, le soleil est quasiment tangent à l'horizon, ce rayon vert qui dure une seconde ou un dixième de seconde en France, là-bas, il peut durer une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure. Et comme notre labo, à nous, le labo d'Astro, avait été choisi pour être dans la direction du soleil couchant, toute la période d'automne où on voit le rayon vert, on voyait arriver tout le monde dans notre labo, prendre le thé et puis faire des photos du rayon vert comme ça. On voit même le rayon bleu, le rayon violet, enfin, c'est un spectacle assez fabuleux et qui se reproduit quasiment tous les jours. Et là où ça devient magique, c'est quand la nuit tombe, vous voyez. Donc ça, c'est la Lune, photo prise en 2006, donc avec la plateforme, le télescope, la base ici, et puis ça, c'est l'étoile, c'est la planète Jupiter. Et je crois qu'on doit avoir l'étoile du Scorpion, la Spica, qui se trouve ici. Là, tu reconnais. Voilà, et donc, alors je montre ces photos tout le temps dans mes conférences. C'est pas moi qui les ai faites, c'est Cyprien Pouzinck, notre hivernant de 2009, qui était un fou furieux. C'était un astronome amateur. Là, il y a plusieurs heures de pause, en cumulé. Hein. Donc, il a fait plein de pauses individuelles, des pauses de quelques dizaines de minutes, quelques minutes. Et puis, il a passé des heures sur le PC à compositer toutes ces images pour faire l'équivalent d'une pause de plusieurs heures d'affilée. Et vous voyez la qualité de l'image, ça a coupé le souffle. Ici, les deux nuages de Magellan. Là, c'est la région de la Croix du Sud, qui est au zénith quasiment, là-bas, avec le sac à charbon ici. Alpha et Beta du Centaure. Alpha du Centaure, qui est l'étoile la plus proche du Soleil. Et une qualité de ciel qui est vraiment incroyable. Un zoom sur le grand nuage de Magellan. Vraiment, quand on voit le ciel de là-bas, En fait, on a envie d'y retourner. Moi, c'est un peu pour ça que j'ai eu envie d'y retourner après 2006, pour retrouver cette qualité de ciel et surtout cette ambiance avec la glace en bas. Et puis la voûte étoilée qui est au-dessus de au-dessus de la glace, c'est fabuleux. Puis les aurores. Bien sûr, qui dit région polaire, bah, dit aurore, parce qu'on est près des zones où le champ magnétique est intense. Et donc beaucoup d'aurores. Donc une prise en 2011. Beaucoup, mais finalement, pas tant que ça. Ce qui est à la fois une mauvaise et une bonne nouvelle. Mauvaise nouvelle pour les curieux, parce que les aurores, c'est beau. Donc c'est dommage qu'il n'y en ait pas beaucoup. Pourquoi il n'y en a pas beaucoup? Ben, c'est simple, c'est parce qu'on est là. Et là, c'est loin de l'endroit où se forment les aurores, qui est une espèce de cercle, le cercle auroral. Hein? Qui est centré sur le pôle géomagnétique, en fait, et c'est lié aux lignes de champ magnétique terrestre. Ma foi, si on avait été au pôle sud, on aurait été plus près du cercle auroral. Donc, eux, ils en ont plus que nous, des aurores. Du Mont d'Urville également, ils sont un peu plus près, ils en ont plus que nous. Mais nous, on est presque au centre du cercle, ma foi, il n'y en a pas beaucoup. Mais ce qui, finalement, est une bonne nouvelle du point de vue des astronomes, parce que les aurores, ça fait de la pollution lumineuse, comme si on allumait la lampe juste à côté du télescope. Et donc ça gêne les astronomes. Donc finalement, c'est plutôt un argument positif, même si faut sacrifier à la beauté, mais il y en a quand même un peu, surtout en période de maximum d'activité solaire. Donc je vous en ai mis quelques-unes. Une prise en 2008 par Éric Bandou. En voilà une autre. Celle-là, elle a été prise en 2011. Donc c'est assez grand, hein, ça prend la moitié du ciel, quoi. C'est monstrueux. On ne voit pas forcément ces couleurs à l'œil, parce que c'est quand même relativement faible. Ou alors les plus brillantes peuvent des fois apparaître un peu verdâtres. Les plus brillantes sont à peu près comme la Voie lactée ou un peu plus, pour donner un ordre d'idée de à quoi ça ressemble. Voilà d'autres aurores, donc des couleurs, ça va du vert au rouge au bleu, et puis ça évolue, ça change, ça disparaît d'un côté, ça apparaît de l'autre, à des échelles de quelques minutes, à quelques dizaines de minutes. Le phénomène total, quand on a une aurore, dure une heure et demie. Et donc voilà une petite animation sur une webcam qui observait le ciel, 120 degrés de champ, à peu près ça. Et donc une aurore qui a traversé le ciel, il y a une demi-heure à peu près de temps qui s'écoule. Et donc ça permet de comparer la luminosité de l'aurore à celle de la Voie lactée. Voilà, et puis j'ai bientôt fini. En 2011, certains l'ont vu, je suis sûr. Il y a eu une éclipse de lune le 16 juin. Vous l'avez vu, ben, nous aussi. Mais nous, on l'a vu en Antarctique. Ça, c'était quand même, comment dirais-je, un spectacle assez magique. Et donc, j'avais réalisé ce chapelet. Il faisait bien froid, hein, ce jour-là. Il devait faire moins 70. Et donc, la Lune, donc, il y avait une photo par heure à peu près, par heure ou par demi-heure, je ne me rappelle plus. Et donc, la Lune éclipsée qui se trouve là, donc avec le paysage de Concordia, donc en hiver, avec la base qui se trouve ici. Voilà. Et puis une autre photo de la totalité de l'éclipse, où on voit le ciel étoilé derrière. Et puis on a une aurore qui s'est invitée également pendant la totalité, comme pour faire un clin d'œil aux astronomes présents sur place. Et donc d'autres photos de l'ambiance hivernale un peu à Concordia. Donc voilà un des télescopes. On maintient l'optique, vous voyez, propre, de manière à pouvoir observer. Par contre, le reste, la neige se dépose partout, mais elle est plus virulente, donc on prend un chiffon, on l'enlève simplement, et puis y a pas de, elle ne reste pas accrochée. Alors oui, ça, en général, je montre. Je suis désolé pour la caméra, je vais aller là, mais je reviens après. Donc voilà, j'ai parlé de moins 80, moins 70, donc on est bien habillé. Donc voilà, hein. Ça, je ne peux pas résister. Donc on est la cagoule. Je ne vais pas parler plus fort parce qu'en fait vous m'entendez pareil. La toque. Voilà, il fait chaud. Et surtout, très important, le masque, parce que il faut pas laisser les yeux être exposés à moins 70, moins 80, donc on sort comme ça. Voilà, et puis les gants. Alors évidemment, pour travailler, c'est pas très pratique. Mais on a des gants, des gros gants en plume d'oie, ça c'est des Valandré. Et par-dessous, on met des sous-gants. Et quand on doit travailler, quand on doit dévisser, et puis nos mécaniciens, c'est Alex, hein, tu connais. Ils prennent un malin plaisir à mettre des toutes petites vis à Allen. Il faut prendre la clé de 3 pour dévisser ça. Et quand on a ça, et ben voilà. Pas très pratique tant je t'entends pas. Et puis j'échoue. Voilà. Ben, je sais pas si j'en ai encore beaucoup. Voilà, on va peut-être s'arrêter sur cette image comme ça. Donc une photo, ça c'était pendant DC3. Donc avec le thermomètre qui indiquait moins 61,5. Voilà, je vais vous laisser partir. Merci de m'avoir écouté.